Bonsoir. Le ministre des Finances, Nicolas Cazadi, a annoncé lundi 17 juillet des mesures urgentes prises par le gouvernement afin de stopper la surchauffe sur le marché d'échange. Il a fait lors du briefing hebdomadaire axé sur la stratégie d'inclusion financière et la situation du franc congolais. Parmi les mesures urgentes prises, Nicolas Cazadi a fait savoir que le gouvernement va veiller à ce que les dépenses en cash soient limitées au strict minimum. Le ministre des Finances a aussi déclaré que le gouvernement a décidé de proscrire tous les paiements qui se font au guichet de la Banque centrale du Congo. L'optique est de privilégier la demande en francs congolais et de réduire la demande en devises. Autre mesure, le gouvernement s'est engagé à privilégier le paiement en francs congolais par les contribuables pour accroître la demande de la monnaie nationale afin de permettre à la Banque centrale du Congo de renforcer le suivi de nos plans des trésoreries et de surveiller la qualité des dépenses publiques, a indiqué Nicolas Cazadi. Que pensez-vous des mesures prises par le gouvernement congolais pour faire face à la dépréciation du franc congolais? Participe au débat Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finance. Fabrice Ngabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Aussi avec moi dans ce studio, Alki Tenge, il est analyste économique et stratège. Alki Tenge, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Et Lems Kamwanya, analyste économique. Lems Kamwanya, la réalisation me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Vous nous suivez sur la 94.8. Et si vous êtes en dehors du pays, vous pouvez nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Okapi ou encore sur www.radiookapi.net. Suivez-nous aussi sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Le ministre des Finances vient d'annoncer plusieurs mesures urgentes pour stabiliser le franc congolais. Parmi ces mesures, le gouvernement va privilégier le paiement des impôts en franc congolais. Nicolas Cazadi l'a dit lors de la conférence de presse tenue hier lundi 17 juillet, conjointement avec son collègue Patrick Muyaya, ministre des Médias et porte-parole du gouvernement. L'objectif de ces mesures est de réduire la demande en devises pour privilégier la demande en franc congolais. Daniel Tchambizoni nous en dit plus.
C'est au cours de la conférence hebdomadaire qu'organise le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement que le gouvernement a annoncé les mesures urgentes pour stabiliser le franc congolais sur le marché de change. Parmi ces mesures, la Banque centrale du Congo commence à intervenir sur le marché de change. Ces interventions vont se poursuivre pour rétablir la situation, a indiqué le ministre des Finances, Nicolas Cazadi. Pour accroître l'utilité du franc congolais, le gouvernement va privilégier le paiement des impôts en franc congolais. Cela devrait permettre d'accroître la demande en fonds. Par ailleurs, la Banque centrale du Congo va désormais surveiller la qualité des dépenses publiques et renforcer le suivi des plans de trésorerie. Nous allons proscrire tous les paiements qui se font au guichet de la Banque centrale du Congo. Nous allons réduire les sorties d'espèces, a poursuivi le ministre des Finances. Sur le plan de la politique monétaire, la Banque centrale du Congo va réguler le flux en francs congolais à travers son taux directeur et opérer le changement sur la politique de ses réserves.
Merci Daniel Tsambinzoni. Fabrice Ngabo, je rappelle que vous êtes chercheur et consultant en fiscalité et finances. Depuis plusieurs semaines, le marché d'échange est en surchauffe, le franc congolais se déprécie face au dollar américain. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'on vit cette situation depuis le début de l'année 2023. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, cette situation?
Merci beaucoup, madame, de la parole. Je vous remercie pour cette invitation. Et la question du taux d'échange dont nous discutons ce soir est une question cruciale. Cruciale parce que, en fait, la dépréciation de notre monnaie réduit considérablement et détruit considérablement le pouvoir d'achat de notre population. Et donc, il est intéressant que les pouvoirs publics interviennent pour pouvoir trouver des solutions de stabilité de cette monnaie. Mais parlant du taux d'échange, d'abord, le taux d'échange, c'est quoi? C'est simplement le taux. C'est simplement le prix. Le prix d'une monnaie exprimée en une autre monnaie. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que le taux d'échange soit aussi instable qu'il est actuellement qu'il soit dans une sorte de montée continue telle que tout le monde finalement le déplore. La population ne fait que crier le taux de changement de chaque jour. Il n'y a personne pour agir. Je crois qu'il faut procéder à une sorte de diagnostic, un diagnostic sérieux. Les causes, en tout cas, sont loin d'être liées aux mesures que le ministre de Finances a énoncées. Encore que ce ne sont pas des mesures nouvelles. Et ces mesures n'auront pas d'effet significatif sur la stabilité du taux d'échange. Parce que, visiblement, il n'a pas procédé à un diagnostic sérieux et profond. Les causes, d'abord, sont lesquelles ? Un, vous savez que la monnaie, elle n'a de la valeur que lorsque elle est sollicitée. Plus notre monnaie, plus nous produisons à l'intérieur, plus notre monnaie est sollicitée. Et moins nous produisons, moins notre monnaie sera sollicitée. Et donc, on ne peut pas être surpris de constater cette situation qui n'est du reste une résultante de la manière dont la politique monétaire de notre pays est conduite. Nous sommes dans une économie qui est fortement dollarisée. Je voudrais vous lire ici les dispositions de l'article 170 de la Constitution. La Constitution de notre pays, celle du 18 février 2006, telle que révisée le 20 janvier 2011, en son article 170, dit ce qui suit. Le franc congolais est l'unité monétaire de la République démocratique du Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tous les territoires nationaux. Mais entre ces dispositions et ce que nous vivons dans notre pays, c'est tout à fait, c'est entre la nuit et le jour. Est-ce lorsque toutes les opérations d'achat et de vente dans notre économie s'effectuent en monnaie, en devise, en monnaie étrangère, est-ce, vous allez me dire, que le ministère des Finances, de l'Économie et la Banque Centrale ne sont pas au courant? Ils sont au courant. Donc la première cause, c'est un, c'est d'abord l'insuffisance de la production intérieure, alors qu'il n'y a pas de mesures sérieuses, d'efforts significatifs qui sont fournis pour pouvoir relever la production intérieure. Deuxième cause, c'est l'inefficacité dans la fonction contrôle du management public congolais. J'en vais aux dispositions de l'article 176 de la Constitution, qui stipule ce qui suit. La Banque centrale est l'institut d'émission de la République démocratique du Congo. À ce titre, elle a pour mission la sauvegarde des fonds publics, la sauvegarde et la stabilité monétaire. Je continue. La définition et la mise en œuvre de la politique monétaire, le contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire. Je me limite à ce niveau-là. Au regard de ces dispositions, pouvez-vous affirmer que cet institut joue les missions qui lui sont conférées par la Constitution? Je pense qu'il y a des faiblesses graves. Il y a une sorte à la limite de légèreté dans la gestion de la politique monétaire de notre pays. Au moment où nous vous parlons, les banques commerciales, ici à Kinshasa, la plupart ne sont pas en mesure d'effectuer l'opération d'échange. Parce que simplement, ils se disent, dans un contexte où on ne sait plus contrôler le taux d'échange, l'opération d'échange, c'est pour que l'entreprise, qui est la banque, qui est une entreprise, puisse réaliser un gain et non une perte. Voyez-vous ? Alors, dans ces conditions-là, la banque qui ne se limite pas seulement à collecter l'épargne et à octroyer le crédit, mais aussi à effectuer l'opération d'échange. Les citoyens qui doivent changer la monnaie dans un environnement sécurisé, ils sont voués à l'insécurité, parce qu'ils doivent le faire à l'extérieur. Et puis, des deux, les banques ne fonctionne pas correctement. Il y a une sorte de dysfonctionnement de l'économie. Et au-delà de ça, au-delà de la Banque centrale, vous voyez le ministère de l'économie. Quelle est sa responsabilité également? Finalement, dans ce pays, tout le monde fixe les prix. Il n'y a plus de contrôle des structures de prix. Tout le monde fixe les prix comme bon lui semble. Et l'État est totalement absent dans les fonctions qui sont les siennes. Et donc, moi je pense que lorsque vous faites face à toute cette situation-là, vous ne voyez que la responsabilité première de l'État congolais. À cela, on ne peut pas ne pas ajouter l'incivisme qu'il y a dans les fonctionnaires les mieux payés de la République, ceux des institutions. lorsque nous sommes en fin de mois généralement, et que les fonctionnaires les mieux payés de la République touchent les rémunérations, quel est le type que l'on observe? Nous sommes sur le terrain, nous vivons les réalités de terrain. Ils perçoivent les rémunérations, au lieu d'échanger l'argent dans la banque, ils descendent sur le terrain.
Ils préfèrent aller voir les cambistes.
Voilà, ils vont voir les cambistes, et parce que les cambistes généralement proposent un taux d'achat qui est inférieur à celui qui est pratiqué par les banques, eh bien, ça devient, on a maintenant une pression sur les dollars américains et la monnaie qui se retrouve en circulation intense dans les circuits économiques perd de plus en plus de la valeur. Et donc, je pense qu'il y a, on ne peut pas incriminer l'absence totale de l'État dans la gestion de la politique monétaire de notre pays.
On a su
dans les contrôles.
Une
dollarisation institutionnalisée et à outrance dans notre économie. Et on ne peut que assister aux conséquences qui sont celles qui déciment le pouvoir d'achat de la population.
Et donc les mesures prises par le gouvernement ne changera rien sur le terrain.
N'auront aucun impact sur le terrain dans la mesure où le taux d'échange, c'est le fait de l'offre et de la demande, n'est-ce pas? Lorsque le ministre dit que les francs congolais les impôts seront désormais payés en francs congolais, mais l'impôt est payé en francs congolais. Nous, nous sommes consultants auprès de plusieurs entités qui paient effectivement l'impôt en francs congolais. Et donc, l'impact ne sera pas significatif, il ne sera presque pas observé, mais les mesures qui doivent être prises sont les mesures qui procèdent d'abord d'un diagnostic profond et sérieux.
Al Kitenge, vous êtes analyste économique et stratège. Que pensez-vous des mesures prises par le gouvernement pour essayer, pour faire face à la dépréciation du franc congolais qu'on observe depuis quelques semaines?
Merci beaucoup, Kelly. Je pense qu'il faut regarder la question à 360 degrés. Lorsque on regarde la monnaie et on voit le jeu auquel la monnaie est soumise, il faut se rendre compte que la monnaie est en fait en réalité à la conjonction de trois éléments. Il y a la finance qui est la chose la plus proche, il y a l'économie, mais il y a également le commerce. Et je voudrais commencer par faire une petite description de notre économie. Nous avons une économie largement extravertie, ça veut dire qu'en fait nous importons une majorité écrasante des biens généralement inutiles que l'on peut produire ici. Et nous gaspillons de cette manière les devises difficilement gagnées par le secteur minier. Pour votre information, près de 92% de nos devises nous viennent du secteur minier, qui est un secteur épuisable. La deuxième faiblesse de notre économie, c'est qu'elle est à plus de 90% informelle, ce qui enlève à l'État la capacité de réguler correctement le système économique. Mais il n'y a pas que l'économie qui est informelle, même la finance est informelle. Aujourd'hui, par exemple, les changeurs de monnaie sont en grande partie dans la rue. Et c'est dans la rue que se pose le problème. Et on se pose la question de savoir comment est-ce que les devises arrivent dans la rue? Et qui vient les acheter dans la rue? Et là, vous avez, par exemple, la facilité de mettre le doigt sur la cinquantaine de supermarchés qui pilulent dans la ville. Vous posez la question de savoir, vendent en francs congolais en majorité? Où est-ce qu'ils échangent la monnaie? Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que eux, il y a les brasseurs qui viennent faire une certaine pression de manière assez continue sur le marché parallèle. À côté de ça, vous regardez le commerce. Vous vous dites, mais comment ça se fait que nous avons ici des opérateurs économiques qui maîtrisent pratiquement tout notre circuit de distribution, je parle des supermarchés, des systèmes d'importation, mais pourquoi ils n'investissent pas une partie de cet argent dans la production intérieur. Les gens vont vous renvoyer tout le temps à une réalité sombre de notre pays, la zaïrisation, mais ce n'est pas une justification. Lorsque vous décidez d'adopter un pays comme un pays de résidence permanente finalement et que vous désirez y faire du business, il faut vous inscrire dans le long terme. Je voudrais insister sur quelque chose d'extrêmement important. Importer des biens que nous pouvons produire ici de manière permanente et volumineuse à l'extérieur voudrait dire nous voler des emplois, nous voler des taxes, nous voler du développement. C'est pour ça que je pense qu'il est important que l'économie d'un pays soit entre les mains des citoyens
du pays. Ne serait-ce qu'en une partie majeure. La situation du Congo aujourd'hui est très malheureuse, c'est que l'économie est tenue par les étrangers et très malheureusement les étrangers très politiquement exposés. Je voudrais dire en grande partie, il y en a beaucoup qui sont des prête-noms d'hommes politiques. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a là une réalité qu'il faut regarder sans complaisance et il faut l'étudier correctement. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'autre. Nous sommes un pays qui importe des billets de banque. Nous importons des dollars dans ce pays. Et nous avons 9 frontières complètement ouvertes. Vous connaissez la mafia qui avait et qui a encore à Loufou. Vous posez la question de savoir comment ça se fait que les biens viennent de l'Angola, ils viennent ici, mais ils viennent prélever les dollars, point full stop. La mafia qui est à Kasumbalé, ça, c'est exactement la même chose.
Mais comment le gouvernement n'arrive pas à contrôler ça, Al-Kitenge?
C'est une réalité, et c'est une réalité contre laquelle le gouvernement essaie de se battre, mais il va falloir qu'elle multiplie les efforts. Mais je voudrais juste attirer votre attention.
On n'en parle pas aujourd'hui seulement. Je vais vous donner la parole. On n'en parle pas aujourd'hui seulement. On a organisé plusieurs émissions dans ce studio de Radio Capi sur cette histoire de dépréciation du franc congolais. On prend des mesures, mais la situation ne change pas.
Dans la stratégie du gouvernement, il y a 2 paliers. Le premier palier, c'est ce qu'on appelle les quick wins, les choses que l'on peut faire rapidement pour temporiser la situation. C'est l'ensemble de mesures, à mon avis très efficaces, que le ministre des Finances a engendrées. Mais c'est de nature simplement à calmer la situation. Tout le monde sait très bien que le problème est dans la structure même de notre économie. Tant que nous allons continuer à importer des choses inutiles, ça veut dire qu'en fait nous allons continuer à avoir la faiblesse dans la production locale et nous allons financer le travail à l'extérieur, qu'on le veuille politiquement ou pas, nous aurons la même faiblesse parce que nous aurons toujours besoin de devises pour aller acheter des biens à l'extérieur. Même Covid n'a pas été capable de nous enseigner et c'est regrettable. Et tant que nous aurons une économie aussi informelle que ce que nous avons aujourd'hui, nous aurons toujours la mafia en train de nous contrôler. Parce que c'est ça la situation réelle de notre pays. Nous sommes sous la coupe de la mafia économique et financière.
Et donc, on a parlé des combistes, les politiques ou même certaines autorités préfèrent aller changer leur argent auprès des combistes à l'extérieur plutôt que dans les banques. Est-ce qu'il faut, mettre fin ou, c'est pas, interdire cette activité?
Kelly, avant que je ne réponde à votre question, je vais vous dire une chose simple. On observe bien sûr une augmentation des prix, non seulement sur les produits importés, mais on observe également l'augmentation des prix sur les biens locaux. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que les gens qui produisent des biens locaux ont besoin d'acheter des biens importés après. Et donc, ils réajustent leur prix. Ce réchauffement du système de facturation, ça veut dire le prix sur le marché, est donc un phénomène à double levier. Et je crois simplement que toute notre intelligence est de dire: quel commerce nous désirons faire? À mon avis, il doit être formel, bien organisé. Nous avons hérité d'un commerce depuis les années 60 qui ne fonctionne pas. Et nous devons avoir un système financier organisé, performant et inclusif. Et nous devons avoir une monnaie qui est portée par une finance intelligente. Et ça, ça dépasse ce que nous voyons aujourd'hui sur le marché de Kinshasa. Parce que, comme vous le savez très bien, la géométrie du taux de change dans la ville de Kinshasa est très variée. Et la géométrie dans le pays est encore beaucoup plus variée. Fonction de où on est et de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on voudrait faire, la mafia vous prend un peu plus fort ou un peu moins fort. Je voudrais insister sur le fait que tant que vous êtes dans l'informel de manière majoritaire, il est très difficile de gouverner, y compris sur les questions simples comme la monnaie. Et je voudrais insister sur quelque chose. Aujourd'hui, notre monnaie n'a pas de place dans notre économie, simplement parce que nous ne produisons pas grand-chose, mais aussi parce que la portabilité de notre monnaie est très difficile. Qu'est-ce que j'appelle la portabilité? Si vous désirez avoir l'équivalent de 100 dollars en francs congolais pour mettre dans votre porte-monnaie, c'est très compliqué. Alors les gens, même pour acheter du carburant à la station d'essence, utilisent le dollar. Et ça, il y a une solution, c'est la monnaie électronique. Et le Kenya a démontré de manière assez claire qu'on peut circuler plus de monnaie électronique dans le mobile money que dans les systèmes bancaires de manière classique. Et donc, c'est, à mon avis, une des façons de réduire la demande en billets verts. Aujourd'hui, les gens demandent le dollar pour conserver de la valeur. Ça ne conserve pas du tout de la valeur. Le dollar lui-même perd 3,5% chaque année. Il faut être assez faible intellectuellement pour penser que le dollar est une monnaie stable. Ça ne l'est pas du tout. Les États-Unis impriment de manière permanente des billets, ça veut dire prélèvent de la valeur sur la monnaie globale de tous les pays du monde. C'est pour ça que les gens du BRICS commencent à dire: nous allons faire les choses différemment. Et moi je dis encore une chose, un pays comme le nôtre, qui est producteur d'or, devrait avoir des réserves d'or achetées localement, raffinées et mises dans notre réserve. Des pays comme la France, des pays comme la Suisse ont des larges réserves d'or sur base desquelles ils peuvent être en mesure de réguler leur monnaie. Si eux, ils font ça, je me pose la question de savoir comment et pourquoi nous, producteurs d'or, nous n'avons pas de réserves d'or. Donc il y a une pile de mesures qu'il faut prendre, les unes rapides pour être en mesure de donner une réponse actuelle à la situation actuelle, mais également il y a des réponses transformatrices qui vont dans le commerce et dans l'économie.
Merci Alain Kitenge. La réalisation me signale que Lems Kamanya est en ligne. Lems Kamanya, bonsoir. Lems Kamanya, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on a un souci avec la ligne de Lems Kamanya. On va essayer de le rappeler. Fabrice Ngabo, il y a un auditeur qui nous a écrit depuis Chicapa. Lui, il estime que le problème, c'est parce que le pays n'a pas une banque congolaise, propre aux Congolais. Il faut moderniser et financer la CADECO. Cela pourrait sauver la situation.
Bon, c'est une idée, mais ce n'est pas la véritable ce qu'on peut envisager comme solution. Je vous rappelle d'abord qu'en 2018, lorsque nous organisons les élections, le taux d'échange était à 1620 francs congolais, un dollar américain. Alors aujourd'hui, sur le marché, on change un dollar américain contre 2500 francs. Et donc, la monnaie s'est dépréciée pour environ près de 54%. Autrement dit, les Congolais ont perdu leur pouvoir d'achat à concurrence de 54%. Donc c'est une situation extrêmement grave qui devrait faire appel à des décisions beaucoup plus sérieuses que ce que l'on a annoncé. Et donc, je suis en train de penser que le plus grand problème ici, c'est d'abord le modèle du management public congolais. Un modèle qui n'inclut aucunement la fonction contrôle. L'État a des lois, a des textes, peut prendre des décisions, mais les suivis et le contrôle n'existent pas. C'est ça le plus grand problème. Alors, quand l'État ne peut pas assurer la moindre fonction de contrôle, on ne peut pas s'attendre au miracle. Et donc, si l'on doit prendre des mesures qui sont sérieuses, c'est celles qui vont dans le sens de relever la production de notre pays. Les biens et services que nous consommons essentiellement nous viennent de l'extérieur. Monsieur Alkitenge l'a rappelé. Et donc, pour que d'abord on s'attaque aux difficultés qui nous empêchent de relever l'économie, s'il faut qu'on fasse quelque chose, c'est d'abord s'attaquer à ces difficultés. Et ces difficultés, à mon avis, sont de trois ordres. S'il faut qu'on résolve les problèmes, il faut s'attaquer aux véritables causes. La première cause qui justifie l'incapacité de notre système économique à pouvoir produire les biens et services dont les consommateurs congolais ont besoin, c'est d'abord l'absence d'infrastructures. Les infrastructures routières, hydroélectriques et hydrauliques, d'abord. On ne peut pas penser développer une économie si on n'a pas de route. Je vous donne un exemple simple. Lors de mes recherches de l'année passée, nous étions au Congo central, dans les fins fonds, dans les territoires de Sekebanda. Vous voyez, un régime de bananes plantains coûte 2000 francs congolais. Mais pour les couler sur le marché de Kinshasa, il faut débourser plus de 30 000 francs. Pourquoi? Parce que les commerçants vous disent clairement que entre les lieux de production et les grands centres de consommation, la route constitue un véritable calvaire. Et donc, sans route, il faut rêver qu'un développement est possible. On ne peut pas non plus développer un pays sans électricité. C'est un leurre. Donc si on ne peut pas chercher des faux fuyants. Monsieur Alkitenga était très réservé pour dire que c'est des mesures qui vont juste atténuer, mais il n'y aura aucun impact. On reviendra ici la fin d'année, je ne suis pas prophète des malheurs, mais on va changer un dollar américain contre 3000 francs parce qu'en fait, il n'y a pas de mesures sérieuses. Et également, on ne peut pas prétendre développer le pays dans un pays où l'économie dans un pays où la population accède difficilement à l'eau potable. Vous avez plus dans ce pays de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans qui vivent de la malnutrition aiguë. Voyez-vous? Donc il s'agit des questions cruciales. Quand on parle de la production, c'est d'abord une question cruciale qu'on doit traiter avec beaucoup de sérieux.
Alors, les deuxièmes facteurs. Ces mesures prises par le gouvernement n'auront pas d'impact, n'auront aucun effet. On va parler des solutions dans la deuxième partie. Vous allez faire des propositions. Hein,
J'ai parlé de causes.
Oui, là, vous parlez de causes. Je dis, dans la deuxième partie, on va parler des propositions, de ce qu'il faut faire pour stabiliser la monnaie congolaise. Je vais vous redonner la parole parce qu'on me signale que Lems Kamwanya est en ligne. Lems Kamwanya, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes analyste économique. Depuis plusieurs semaines, le franc congolais se déprécie face au dollar américain. Le gouvernement a pris une série des mesures pour essayer un peu de stabiliser la situation. C'est notamment le gouvernement a décidé de proscrire tous les paiements qui se font au guichet de la Banque centrale du Congo. L'optique, selon le ministre des Finances, est de privilégier la demande en francs congolais et de réduire la demande en devise. Autre mesure, le gouvernement s'est engagé à privilégier les paiements en francs congolais par les contribuables pour accroître la demande de la monnaie nationale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui. Bon, j'ai suivi avec intérêt ces différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement. Bon, à mon sens, je pense que il s'agit de mesures conjoncturelles pour dire il y a une bulle spéculative sur le marché. Comment on peut rapidement intervenir pour arrêter la dépréciation de la devise nationale par rapport aux devises étrangères. Mais je me rends compte que les mesures qui sont prises ne se sont pas attaquées principalement à la cause principale. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les francs congolais sont en train de perdre de la valeur face aux devises étrangères? Je crois que la raison majeure, c'est que il n'y a plus de francs congolais sur les marchés qu'il y a les devises. Alors, s'il n'y a plus de francs congolais, on pense que l'État est en train de recourir aux avances de la Banque centrale suite à l'insuffisance des recettes publiques pour couvrir ces dépenses. C'est cet accroissement de la devise nationale qui est à la base de ce qu'on constate aujourd'hui comme dépréciation. Parce que vous allez vous rappeler, dans un passé récent, les francs congolais étaient rares sur les marchés. Il y avait plus de devises sur les marchés que les francs congolais. Mais actuellement, ce n'est pas la tendance qui est là. On se rend compte qu'il y a suffisamment de francs par rapport au dollar. Et vous connaissez aussi en économie, en monnaie, lorsque une devise nationale comme les francs congolais commence à perdre la valeur, la plupart des ménages ou des opérateurs économiques ne la considèrent plus comme une réserve de valeur. Parce que je me dis, bon, j'ai 100 000 francs aujourd'hui qui valent 50 dollars, demain, ça va valoir 40 dollars, alors je profite pour m'en débarrasser et chercher une monnaie qui est plus stable. Ça, c'est le comportement qui est induit du fait qu'on se rend compte que la monnaie n'est pas stable. Je crois que c'est à ce niveau-là que le gouvernement devrait plus agir. Les mesures qu'on a évoquées, privilégier le paiement des impôts en francs congolais, à quoi ça demande en francs congolais, mais ça dépend de... Même si vous privilégiez ça en francs congolais, les gens qui les auront, ils n'ont plus assez confiance dans la monnaie, et la monnaie, quand ils n'ont plus assez confiance, ils vont chercher une monnaie de référence qui est le dollar. Donc la pression sur le marché des finances va continuer à s'accentuer. L'une des mesures qui peut porter ses fruits aujourd'hui, c'est peut-être que le gouvernement dise qu'il fonctionne sur ce réseau des finances pour intervenir sur le marché des finances. Ça peut permettre à ce qu'on rachète les francs congolais sur les marchés et qu'il y ait les devises qui sont mises à disposition des opérateurs économiques pour importer. Ça peut estomper un peu, ça peut estomper la dépression du franc congolais. Pensez tout simplement que voilà, on va demander que les impôts soient payés en dollars ou on va privilégier les demandes, proscrire tous les paiements. Ce n'est pas ça qui accroît forcément la masse monétaire qui est en circulation, parce qu'au-delà de ça, il y a cet aspect confiance. Nous parlons de la monnaie fiduciaire qui est basée sur la confiance. Et aussi, il y a le fait que on a toujours évoqué ce cas-là. C'est vrai que l'État connaît des problèmes, mais il faut réduire aussi les plans de niveau des institutions pour diminuer les volumes de la dépense publique. Plus les dépenses publiques sont plus élevées que le fait de l'État et que vous recourez aux avances de la Banque centrale, vous êtes en train de créer un accroissement délibéré de la masse monétaire sur les marchés qui entraîne la pression sur les devises étrangères. Je pense que c'est à cela que le gouvernement devrait plus concentrer ses mesures qu'aller sur des mesures qui sont traditionnelles bancaires qui, à mon sens, ne peuvent pas atténuer la surchauffe qu'on est en train de constater aujourd'hui sur les marchés d'échange.
Merci Lams Kiamonia. Les internautes sont très très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Kapi. Il y a une question pour toi, Al Kitenge, qui nous vient de Cape Town. Je crois que c'est Madame Brigitte Salomon, voilà, Brigitte Salomon depuis Cape Town. Elle vous pose à vous la question de savoir quels sont les facteurs responsables de la dépréciation d'une monnaie. L'émission est aussi pédagogique, donc...
Les facteurs... qui justifie la dépréciation d'une monnaie, c'est en général le fait qu'elle ne soit pas portée par une production. À partir du moment où une monnaie ne correspond pas à de la valeur créée, elle ne vaut pas grand-chose et c'est le problème de la République démocratique du Congo. Quand on dit que notre PIB par tête d'habitant est inférieur à $600 et on vous dit que l'Angola est à 2500, vous voyez bien que par tête d'habitant, la quantité des richesses produites est largement inférieure. Et lorsque vous avez une asymétrie aussi grave que ce que nous avons ici, vous savez, notre croissance économique est plus portée par les mines, et les mines sont ce qu'on appelle des secteurs à haute intensité capitalistique. Ça sous-entend qu'en fait la redistribution est très faible. Nous sommes dans un pays où le chômage est très élevé et le chômage formel est encore beaucoup plus élevé. Et je crois simplement qu'une monnaie, elle est le reflet de l'économie et le reflet du commerce. Et en matière de commerce chez nous, c'est ce commerce domestique et le commerce international. Et sur le commerce international, nous exportons des produits miniers et nous importons les cure-dents. Et c'est toute cette catégorie de situations qui devrait nous faire réfléchir sur quoi nous devons être en mesure d'agir. Et là, il y a deux paliers. Le premier palier, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire rapidement pour être en mesure de contenir la situation? Parce que si vous désirez faire des routes, vous désirez engendrer la production locale, ça prend du temps, ça s'inscrit dans le temps. Et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que nous sommes dans une situation qui vient de très loin. Et il faut la corriger rapidement, avec courage et avec détermination.
Alors, au mois de mars, on a eu ce même problème. Une série de mesures avait été prises par le gouvernement. Aujourd'hui encore, on se retrouve.
Non. Souvenez-vous que nous avons eu un ministre de l'économie qui a perdu son poste, victime de la mafia. Ce ministre était en train de dire justement à l'époque que importer c'est bien, nous pouvons importer. D'abord, nous pouvons importer directement pour avoir la capacité d'avoir des vrais prix, pour que nous ne soyons pas victimes de la spéculation, mais il faut produire à l'intérieur du pays. C'est en produisant du poisson ici, c'est en produisant de la viande ici, c'est en produisant nos céréales ici que l'on peut transformer l'économie et la finance d'un pays. Personne ne pourra vous tromper. Si vous ne produisez pas localement, vous êtes des esclaves économiques. Et dans la situation d'aujourd'hui, nous sommes des esclaves économiques. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant le Covid. Il a suffi qu'on ferme les frontières pendant une semaine. Nous avons paniqué ici. Souvenez-vous que le chef de l'État a dû dépenser $1 million pour qu'on essaie d'acheter de la nourriture au Congo central et au Bandundu. On s'est rendu compte que les gens n'étaient pas préparés à ça. Et donc nous devrions être en mesure d'avoir une résilience réfléchie. Et Covid-19 devrait nous enseigner. La guerre entre la Russie et l'Ukraine devrait nous enseigner encore davantage. Mais nous nous conduisons comme si cela n'était pas encore quelque chose qui ne peut nous réveiller. Nos universités ne produisent aucun document qui donne la stratégie et l'orientation. Tout ce que vous dites à la radio et à la télévision, les gens vous écoutent à petite oreille. Et notre écosystème global est fait d'hommes d'affaires importateurs. Allez regarder à la FEC, à part les miniers, tous c'est des importateurs. Mais les importateurs, ce sont des criminels économiques. En fait, il faut les appeler ainsi d'une certaine manière. Parce que vous pouvez importer des choses pendant un temps. Vous ne pouvez pas avoir comme stratégie pour un pays d'importer en permanence. On importe de l'eau, on importe des jus des pays désertiques. On importe de la farine du Brésil. À un moment donné, il faut être
alors
sérieux.
On peut produire ça ici chez nous.
Et je pense simplement que là-dessus, le gouvernement devra prendre des mesures sérieuses pour imposer à toutes ces personnes qui importent de commencer à réduire progressivement et à produire localement. Ils vont gagner de l'argent, de toute façon, c'est ce qu'ils cherchent. Et donc, il est inacceptable de prendre nos devises « gagner chèrement » en vendant des produits miniers pour aller acheter des produits agricoles qui financent le travail dans d'autres pays. Et ça, c'est une décision structurante politique. Elle peut ne pas plaire. Je n'ai absolument rien contre les opérateurs économiques étrangers, mais je pense simplement qu'il faut un minimum de patriotisme économique. Et là-dessus, c'est facile à comprendre. Quand les gens importent des biens et financent le travail et les impôts dans d'autres pays, il y a peut-être une fibre sentimentale, mais nous avons le devoir de protéger notre économie et rendre à nos enfants et à nos petits-enfants une économie qui marche.
réaction au propos d'Alky Tengue, Fabrice Ngiapo, avant
savez,
de prendre les auditeurs au téléphone.
Vous savez, il est difficile, très difficile de moraliser les opérateurs économiques, les entrepreneurs particulièrement. Il est très difficile de les moraliser dans la mesure où, à un certain niveau, leur objectif contraste avec celui des pouvoirs publics. L'objectif d'une entreprise, c'est de maximiser les bénéfices. L'État, lui, par contre, concourt au bien-être collectif. Alors, toutes les voies qui s'offrent à un opérateur économique sont les bienvenues pourvu qu'il atteigne ses objectifs. Et donc, aussi longtemps que nous allons continuer à penser que les causes profondes, qui sont les infrastructures, les difficultés d'accès au crédit, les climats des affaires moroses, l'insécurité physique et alimentaire de notre pays. Aussi longtemps, nous allons continuer à penser que ces causes, pour s'y attaquer, il faut beaucoup de temps et qu'il faut trouver des solutions palliatives pour résoudre rapidement les problèmes. Les choses ne changeront pas. Il faut d'abord des solutions structurelles parce que les problèmes sont aussi structurels. Et donc, aussi longtemps, on va s'écarter des véritables problèmes que sont notamment les infrastructures, on ne va pas s'en sortir. Donc, si on s'y attelle, on va relever la production parce que je ne vois pas quelqu'un d'autre, un autre peuple, qui va produire à la place des Congolais. Ceux qui viennent faire le travail ici, c'est parce qu'ils y trouvent leur compte. Et si les Congolais, ils disent que, bon, de manière générale, quand on fait un diagnostic de notre économie, on réalise que les producteurs congolais, les entrepreneurs congolais, ils ont des difficultés sérieuses d'accès au crédit, l'État devrait, par exemple, perpétuer des initiatives rares, comme celles que nous avons, par exemple, constatées avec un programme intéressant qui a été mis en place, qu'on appelle PADEMPME. Il y a des initiatives un peu similaires qui sont en train de naître, et pour justement accompagner les entrepreneurs congolais aux côtés des banques qui sont de plus en plus réticentes par rapport aux risques qu'ils prennent vis-à-vis des entrepreneurs congolais, de manière à ce que nous puissions produire les biens et services dont les Congolais ont besoin.
On regarde Fabrice Ngiapo, le temps pour nous d'ouvrir le standard pour prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à appeler, me signale la réalisation. On va se rendre à Kananga, au Kasaï central.
Maître Alidor Mampouya, avocat dans la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. Nous saluons la batterie de mesures qui ont été prises par le gouvernement congolais tendant à stabiliser la monnaie nationale. Cependant, nous fustigeons le fait que parmi ces mesures, il n'y ait pas été pris le mesure allant dans le sens de retourner ou de reconnaître le monopole du marché de change à la seule Banque centrale du Congo, tant aussi que certaines marchandises continuent à être fixées et vendues en dollars, tant que certains organismes et entreprises continuent à payer leurs agents ou personnels en dollars ou en devises ou en d'autres devises étrangères. Donc la batterie de mesures qui ont été prises ne pourra pas faire changer la donne. Le gouvernement pouvait aller plus loin pour supprimer le phénomène de changeurs de monnaie appelé communément cambis, parce que ce sont eux qui sont à la base des spéculations à tout moment. Et on devrait aussi, aujourd'hui là, sur le marché, supprimer le phénomène de la dollarisation du marché congolais qui est en train de prendre de l'ampleur et ce qui est à la base aussi de l'érosion monétaire.
Fabrice Ngiapo, que pensez-vous de l'analyse de cet auditeur de Kananga?
Je pense que l'auditeur a complètement raison, parce que l'État doit agir. Je pense que c'est l'État qui doit se lever pour prendre des décisions et s'assurer que ces décisions sont respectées. La loi bancaire de 2002 ne parle aucunement de ce phénomène où nous voyons l'argent est en train de fonctionner dans la rue, n'est-ce pas? Pourquoi on continue à laisser les phénomènes cambisme dans la rue, avec l'affichage du taux d'échange. Vous voyez une sorte de concurrence finalement. Celui-ci affiche un taux élevé, l'autre aussi un autre taux, et la population va, celui qui a un besoin de financement, va là où le taux est élevé, et ainsi de suite, une spéculation sans fondement. Je vous rappelle un peu, à l'époque de Covid, madame, il a suffi que l'État sévisse et dise chacun doit porter les cachets. Si on ne le porte pas, on est contraint. Il y a la police qui est là en contribution. Jusque quand nous allons continuer à amadouer ces gens, à se muer vers les bureaux d'échange ou à ne pas à cesser d'afficher les prix. Jusque quand? Il faut que l'État s'assume, qu'il sache non seulement prendre des mesures et en faire les suivis. Quand nous parlons ici des mesures que l'État a prises, en tout cas moi, je n'en vois pas. J'aimerais bien que l'État prenne des décisions et des actes sérieux et sincères pour arrêter par exemple l'insécurité qu'il y a à l'Est, qu'il y a ici à Kinshasa. Comme ça la population va se consacrer, au travail, va produire et le peuple va vivre de la sueur de son front comme le dit. Donc je crois qu'il y a un dysfonctionnement total du circuit économique de notre pays où l'État est totalement absent et je ne vois pas celui-là qui va jouer le rôle des institutions de la République.
L'EMSE Kamwanya, on va se rendre à Bukavu pour prendre aussi cette autre réaction pour vous.
Patrice Mundera Kulimunshi depuis la ville de Bukavu. Toutes ces mesures ne sont que vouloir chercher une solution immédiate et qui ne va que durer quelques jours. Et pourtant, la situation doit être réglé de manière durable en produisant plus que de dépendre de l'extérieur. Lorsqu'on a une économie extravertue, la monnaie étrangère élimine toujours la monnaie locale, d'où il faut produire plus pour importer moins.
Alors, je vais ajouter cette autre réaction de Padjo qui nous écrit depuis le Burundi. Il dit ceci, ici aussi il y a dépréciation de la monnaie locale, mais la population ne ressent pas cela parce que leur monnaie s'impose dans le pays. Il vous pose la question de savoir, eux font comment pour que leur structure des prix reste statique malgré cette dépréciation.
Question. Ce que M. Patrice Mudera de Bukavu évoque, c'est des solutions que les autres intervenants qui sont sur le plateau ont évoquées. Il s'agit de mesures structurelles. Nous devons agir sur la structure de notre économie. C'est vrai que l'économie congolaise, comme les économies de la plupart des pays, sont extraverties, tournées vers l'extérieur, parce qu'il y a toujours des opérations d'importation et d'exportation qui se passent. Mais le plus grand problème, c'est que vous avez une structure économique dont une bonne partie de la production, la grande partie de la production ou des biens et services qui sont consommés sont plutôt importés de l'extérieur, ce qui pousse les pays à générer davantage de devises pour arriver à payer ces biens et services. Tant que la structure de notre économie va demeurer telle qu'elle est, à ce moment-là, il y aura toujours ce problème qui va revenir. C'est pourquoi M. Patrice insiste sur le fait qu'il faut commencer par agir sur la structure de l'économie. Mais ces réformes structurelles, elles ne sont pas des mesures à court terme, c'est à long terme. Parce que si aujourd'hui il faut investir dans les industries, dans les plantations, dans des champs, ce n'est pas en une semaine ou en deux mois. C'est des choses qui vont prendre du temps pour qu'on se dise d'ici une année, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, qu'on commence à sentir que l'économie demeure stable. Et c'est ce que l'auditeur, par exemple, qui intervient à partir du Burundi évoque. Dans ces pays, vous verrez que la plupart de ce que les gens consomment, ce sont des biens et services, la plupart des biens qui sont produits localement. Et la structure des pays est fixée en leur devise nationale, contrairement à notre pays où, outre le fait que l'économie soit totalement extravertie, mais elle est aussi fortement dollarisée. Bon, ailleurs, dans d'autres pays, les gens ne payent pas sur les marchés avec les devises étrangères, ils payent avec la monnaie nationale pour qu'ils aient confiance en leur monnaie nationale. Et ça, c'est une des mesures importantes qui devra être prise pour éviter qu'il y ait cette spéculation qui se passe, parce que si tout le monde a les raisonnements et toute l'économie, tout le commerce est basé sur le dollar américain, à ce moment-là, chaque fois que le dollar va bouger, et ça va créer une perturbation sur le marché de change. Je crois que ça serait une grande réforme, que les gouvernements disent tous les biens doivent être achetés, la structure doit être fixée en franc congolais, et ensuite, cela doit être suivi et prendre des mesures aussi pendant qu'on y est, à très court terme, de disponibiliser les devises sur les marchés bancaires. Les gens qui évoquent les problèmes des cambistes, moi j'ai toujours considéré ça comme un faux problème. C'est comme les carburants. Sur les marchés, vous avez les gens qui vendent, ce qu'on appelle les cadastres, qui vendent les carburants dans les bidons, sur la rue. On n'y va pas, on va dans les stations. La même chose avec les cambistes, s'il y a les devises sur les marchés bancaires, s'il y a les devises au niveau des différentes banques, qui va les chercher ces devises dans la rue? Personne. Je crois que ça c'est juste, comme on dit, la nature a horreur du vide. Quand on va dans les banques et qu'il n'y a pas de devises, on commence maintenant à aller sur la rue. Sachez que dans une économie normale, les cambistes, ils existent, ce n'est pas un terme propre aux Congolais. Ils sont là pour chercher les devises, ils sont là, ils travaillent pour le compte des grandes entreprises qui cherchent des quantités importantes de devises. Sauf que ici, dans notre pays, cela a été détourné par le fait que le système bancaire connaît un problème, il n'alimente pas suffisamment en devises les opérateurs économiques qui sont appelés à importer différents biens et services, et pourquoi ça existe. C'est un accident, pour moi je l'appelle des parcours, qui disparaîtrait si le système bancaire est suffisamment bien organisé.
Alkitenge, on va prendre cette dernière réaction qui nous vient de Kinshasa.
Alphonse Tiefou depuis la ville de province de Kinshasa. Je pense que le gouvernement doit cesser à prendre des mesures qui ne vont rien changer sur le terrain. Car il connaît très bien que le cours ou la dépréciation du franc congolais est la conséquence de la non-production de l'RDC. Et les marchés d'échange se règlent par l'offre et la demande. Cependant, le gouvernement doit prendre la décision courageuse d'interdire la circulation de dollars américains en RDC pour pallier à la situation.
C'est possible d'interdire la circulation du dollar en RDC, Alkitenge?
Mais tous les pays qui nous entourent n'utilisent pas au quotidien le dollar dans les transactions sur le sol domestique.
Ça serait une solution.
Et donc, ça peut être une solution, mais c'est un processus. Mais moi, par contre, je voudrais réagir sur ce qu'a dit tout à l'heure l'EMS. L'EMS, c'est quelqu'un que je connais qui est intelligent. Et il dit une chose à moitié. Il dit que les gens vont chercher les devises sur le marché parallèle. Dans ce pays, la réglementation dit que si vous désirez importer des biens, vous devez émettre une licence d'importation. La licence d'importation est essentiellement bancaire. À quel moment les gens qui trouvent de l'argent dans la rue le mettre dans les banques pour être en mesure de mettre, d'émettre des... Non, en fait, il faut être sérieux. La réalité là-dedans, c'est que nous sommes dans une mafia, nous sommes pris à la gorge, et la faiblesse des administrations est liée à la corruption, et tout ce que nous vivons est le fruit du banditisme d'État. Il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Et aujourd'hui, la plus grosse faiblesse, c'est le conflit d'intérêts permanent des hommes politiques dans l'économie et leur rapprochement bizarre avec des opérateurs économiques, j'ai envie de dire, véreux. Mais en fait, c'est ça la situation. Le petit peuple paye le prix de l'indiscipline collective. Il faut avoir le courage de le dire. Mais je voudrais terminer par quelque chose de plutôt positif.
Ça sera votre conclusion.
Par quelque chose de plutôt positif. Le chef de l'État a lancé ce programme des 145 territoires. Ce programme révolutionnera absolument ce pays. Et ça prendra du temps, mais ça révolutionnera le pays. Deuxième chose, les gens pensent toujours que l'État doit rester régulateur, les opérateurs économiques ont le monopole de la production de la richesse. C'est une bêtise à haute voix. Le pays le plus puissant du monde aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine est un pays entrepreneur. Je crois que dans une situation comme la nôtre, et le ministre des Finances le disait très clairement, nous sommes à moins de 7% de taux de pénétration bancaire. Pour changer ça, il faut que l'État agisse. Cadeco, non, pas du tout. Cadeco est en faillite. La poste bancaire n'a pas fonctionné. Il faut que l'État invente un instrument financier capable de pousser les services financiers dans nos villages. C'est seulement quand nous aurons la capacité de mouiller nos villages avec de l'argent, ce qu'on appelle le crédit, que l'on pourra être en mesure de produire. Et en ce moment-là, tous les organes de l'État devront se réinventer en fonction de ce paradigme du développement à la base. Ce n'est pas qu'un narratif. Ça doit être un processus, ça doit être une discipline d'exécution. Et je crois que là-dessus, si nous le faisons, nous allons transformer de manière durable notre système économique, nous allons consommer ce que nous produisons et nous allons produire ce que nous consommons. Et alors, nos devises que nous allons accumuler de par le secteur minier pourront constituer un fonds souverain qui pourra justifier des investissements à l'avenir et en situation de difficulté. Il faut savoir que quand les minerais seront terminés, nous devrons avoir de la justification à donner à nos enfants et à nos petits-enfants.
Merci à Alkitenge, Fabrice Ngabo.
Madame, je pense qu'il nous faut de la rigueur. Entre 2012 et 2016, nous avons observé une stabilité plus ou moins durable, n'est-ce pas, où nous avons changé un dollar américain contre 920 francs. Ce taux est resté gravé dans la mémoire des Congolais jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que les dirigeants de l'époque ont fait pour assurer ou préserver la stabilité de notre monnaie? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que être rigoureux par rapport à la gestion et de la politique monétaire, de la politique budgétaire. Une autre solution, c'est qu'il faut changer la structure de notre budget. Il faut renverser la structure de notre budget. On ne peut pas demeurer à continuer à avoir un budget dont plus de 60% est orienté vers le fonctionnement des institutions et une infime partie dans la production. Il faut par contre qu'il y ait une part plus importante affectée dans les investissements productifs de la richesse, notamment les infrastructures. On ne peut pas éviter ce problème. C'est la plus grande cause qui justifie l'insuffisance de la production intérieure. Il faut investir suffisamment de moyens dans les investissements productifs de richesses, notamment l'infrastructure. Il faut améliorer l'accès au financement des agents à besoin de finance, des agents locaux à besoin de financement, et à travers des initiatives qui sont différentes du fonctionnement classique de notre économie. De quatre, il faut améliorer le climat des affaires qui est de plus en plus morose. Quand vous prenez l'ordonnance ou loi qui liste les droits, taxes et redevances au profit à l'initiative du pouvoir public, provinces et etc., vous trouvez toute une panoplie des ressources qui sont encombrantes, qui rendent morose le climat des affaires, qui ne permettent pas aux Congolais de fonctionner en dehors de tracasseries.
Merci.
Et donc moi je pense qu'il faut en plus de ça de la rigueur et savoir rationaliser les choses.
Merci Fabrice Ngabolems Kamanya. En 40 secondes, hein, votre mot de la fin, il faut...
Oui, donc moi je dirais il y a deux choses à dire. La première des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait une discipline dans la conduite de la politique financière de l'État, parce que c'est la gestion de la politique budgétaire qui, dans cette perturbation, se répercute avec usure sur le marché d'essence. Et là, je vais pointer à très court terme de voir encore comment arriver à ce que l'État puisse dépenser sur ce qu'il consomme pour éviter de recourir aux avances de la Banque centrale qui entraînent ces perturbations qui sont sur les marchés et qui aient une meilleure coordination de la politique monétaire et budgétaire. Mais à long terme, la solution durable demeure l'augmentation de la production et le changement de la structure de l'économie congolaise. Sans ça, ces problèmes vont être toujours répétitifs.
Merci Lamso Kamanya, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guimanté Alain Goy, Clément Chimanga. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.